Andreas s'approcha alors du bord de la route et se mit à farfouiller dans les herbes en marmonnant, jusqu'à trouver une plante dont il arracha quelques feuilles. « Tu connais cette plante, Robin ?»«
Millepertuis, »
répondit docilement l'apprenti. « Hypericum perforatum, plus précisément. C'est une plante qui n'aime pas l'ombre et on la trouve facilement à la lisière des forêts ou sur les bords des chemins comme ici. On peut faire une huile de ses fleurs qu'il convient de cueillir à la Saint-Jean, mais ses feuilles aussi ont quelques vertus médicinales, que Dioscoride indiquait déjà et dont nous nous contenterons aujourd'hui. » L'apothicaire porta les feuilles à son front et frotta doucement la plaie sanglante, puis pressa dessus pour arrêter l'hémorragie. « Et maintenant, que diriez-vous d'aller dormir dans un bon lit ?» demanda Andreas en jetant les feuilles par terre. « Et les trois brigands, on les laisse ici ? Tu ne voudrais tout de même pas que je leur paye une chambre ?» Andreas inspecta les blessures des trois hommes et prit leur pouls. « Rien de grave, ils se réveilleront bientôt. Et sans habits. »«
Pardon ?»
Il m'est avis que nous passerons plus inaperçus en adoptant le costume des pèlerins, expliqua Andreas tout sourire.
Mais ce ne sont pas de vrais pèlerins,
protesta Robin. Justement, nous non plus.
C'est vrai.
Et je vois que celui-là a une bourse pleine de quelques sous et deniers.
Ah ça, vider les bourses, c'est ma besogne, intervint Magdala.
Maître, s'indigna le jeune homme.
Mais tais-toi donc.
Il n'y a rien qui m'agace autant que l'excès de probité. Ces quelques pièces vont mettre de la nourriture dans nos assiettes pendant plusieurs jours. Ces imbéciles n'avaient qu'à choisir un meilleur chemin.
Ah, malin, malin et demi.
Tiens, toi qui es si pieux, tu n'as qu'à y voir la main de Dieu qui a eu la diligence de bien vouloir mettre sur notre route un peu d'argent pour nous nourrir. Ainsi, maître, apprenti et catin dépouillèrent les trois brigands sans vergogne.
Oh, ça !
S'exclama soudain Andreas après avoir vidé les poches de l'un des coquillards. « Tiens, Magdala, viens donc par ici. »«
Qu'est-ce que t'as trouvé, mon loup ?»
Et comme elle s'approchait, il lui prit la main et glissa sur son annulaire une magnifique bague en argent, sertie d'une verte émeraude.
« Par la pine de Saint-Valentin, me demanderais-tu en mariage, mon mignon ?»«
Rassure-toi non, ma belle. De servante n'est pas besoin. » Magdala, singeant les manières d'une jeune fiancée émoustillée, déposa un baiser sur le front de l'apothicaire. Puis, tous trois se défirent de leurs manteaux, et déshabillant les brigands, se déguisèrent en jaquets à leur tour. Équipés de besaces et bourdons, ils se remirent en marche, entrèrent dans le riant vallon des Tréchis, où ils trouvèrent une abbaye bénédictine qui accueillait les pèlerins en échange d'un donativo. Andreas et Magdala se présentèrent comme mari et femme, et Robin fit leur enfant. Avec un peu d'imagination, ces trois singuliers voyageurs passaient bien pour une dévote famille, en route pour Compostelle.
Chapitre 55. Alice resta un long moment à observer le village, sous le manteau de la nuit tombante. De là où elle était, elle pouvait en admirer la construction en circulade. L'enceinte, ouverte par trois portes, ne comptait, contrairement à celle de la plupart des villages environnants, aucune tour, et seul le donjon du château à l'intérieur des murs dominait l'ensemble. Sur le flanc est de celui-ci, dans la pénombre, on devinait seulement les premiers murs d'une église en pleine construction. La jeune fille avait faim, elle avait froid, elle était à bout de force. Mais elle n'était pas certaine qu'il fût prudent de s'aventurer parmi ses pères, si près de Béziers. Et si la nouvelle de ce qu'elle avait fait là-bas était parvenue jusqu'ici ? Toutefois, l'état de ses blessures s'était aggravé pendant cette journée de marche. Partant, elle craignait de ne pas pouvoir survivre en passant la nuit dehors. Elle décida donc de s'approcher prudemment de la ville. Son baluchon sur le dos, sa main droite crispée sur son bâton de marche, elle descendit le flanc ouest de la colline, longea la route qui menait à la porte de la fonte, mais ne s'y montra pas, comme ses vêtements et les taches de sang qu'elle avait sur le corps eussent sans nul doute attiré l'attention. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas de l'enceinte, elle jura. Il était tard, plus tard qu'elle ne l'avait estimé, et la haute porte était déjà fermée, gardée par deux soldats du guet qui n'étaient pas seulement là pour défendre le bourg, mais aussi pour faire payer le ton-lieu aux commerçants tardifs qui souhaitaient encore y entrer. Impossible de pénétrer dans Puisserguier sans se faire connaître. La jeune fille, abattue, se laissa tomber sur un rocher et sentit des larmes familières couler de nouveau sur ses joues. Elle avait tant pleuré depuis la mort de Zacharias qu'elle se